Si quelqu'un peut expliquer un peu le verset 15, je prierai avec l'esprit, je prierai avec aussi avec l'intelligence, je chanterai avec l'esprit et je chanterai avec l'intelligence. C'est quel esprit et quelle intelligence?
Oui, j'avais envie de poser la même question, donc je répète la question, que tout le monde soit bien réveillé. L'esprit se sert de notre esprit. Et si nous avons un esprit de sagesse, Dieu se sert de la sagesse qu'il nous a donnée aussi pour comprendre les choses. Alors c'est un peu difficile tout ça dans la pratique. Il faut vraiment qu'on nous aide.
Il me semble que parfois on peut avoir une idée fausse de l'action de l'esprit de Dieu. Pour les Corinthiens, pour eux, l'action la plus formidable de l'Esprit de Dieu, c'était quand ça devenait le plus incompréhensible. Je me souviens, sans qu'on parle de parler en langue, je me souviens une fois d'une réunion à Bordeaux, où personnellement, je n'avais pas compris grand-chose. Je n'étais pas très prêt à me préparer pour le combat parce que j'avais pas compris trop ce qui avait été dit. Et puis, je rencontre une sœur à la sortie qui me dit « Ah, on a eu une magnifique réunion ». Alors, il y avait deux hypothèses. La première hypothèse qui était la plus probable, c'est que, au fond, je comprends pas grand-chose. La deuxième hypothèse, et je crains que ce soit la bonne, c'est que cette sœur pensait que plus c'était, comme on dit parfois, élevé, je ne sais pas ce que ça veut dire un truc élevé, mais plus c'était ésotérique, ça veut dire ésotérique, c'est quelque chose qu'il n'y en a que quelques-uns qui comprennent, plus c'était incompréhensible, plus c'était spirituel. Et ça, c'est faux. Il faut se lever avec la plus grande énergie contre ça. Dieu parle à des êtres qu'il aime. Et il désire que ses enfants comprennent ce qu'il dit. Et quand on lit la parole de Dieu, souvent, si les choses, il y a des passages qui ne sont pas faciles, mais si les choses deviennent compliquées, je crains que ce soit nous qui les compliquions. Et de notre côté, je crois aussi que quand il s'agit de l'édification dans l'assemblée, il faut regarder comment le Seigneur enseigne. Quand le Seigneur enseigne, il enseigne de telle manière qu'un enfant peut comprendre. Sans que la chose devienne, sans que le niveau soit baissé, si j'ose dire. Et il enseigne une foule de telle manière que chacun est concerné. Et il enseigne ceux qui sont présents de telle manière que, à la fin, ils se sentent mal à l'aise, et c'est eux qui ont à mettre la conclusion. Alors, dans notre passage, il me semble que quand la parole est annoncée, celui qui la présente doit savoir être intelligent de telle sorte. On en prend tout ça. Doit savoir être intelligent de telle façon qu'il soit sensible aux besoins, et il n'est pas là pour délivrer un message, mais il est là pour répondre aux besoins de ceux qui sont là. Je répète, il n'est pas là pour délivrer un message, il est là pour répondre aux besoins de ceux qui sont là. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai exercice. Et je crois que peut-être que c'est pour ça que l'Esprit de Dieu a mis le chapitre 13 de 1 Corinthiens avant 1 Corinthiens 14.
Et le vrai message, c'est peut-être justement de transmettre quelque chose qui pénètre et qui fait du bien. Quand on lit le verset 9, de même aussi vous, avec une langue, dans le sens de langage, Si vous ne prononcez pas un discours intelligible, saura-t-on ce qui est dit, car vous parlerez en l'air. Et puis un petit peu plus loin, on comprend que c'est tout simple et direct. Si l'autre n'est pas en mesure de comprendre, ou plus exactement après ce que nous avons dit ce matin, si on se rend compte que l'autre ne comprend pas, eh bien on peut revenir au verset 9 en se disant, tiens, alors j'ai parlé en l'air. Or, la pensée de Dieu n'est pas que nous parlions en l'air, mais il faut des choses concrètes, utiles, hein, des choses qui réveillent. Quelquefois, on peut être amené à s'adresser à des enfants. Bon, il y en a plusieurs ici qui le font, et c'est pas mauvais de temps en temps. Et puis, les adultes, ils ont quelquefois besoin aussi qu'on le réveille. En tout cas, si quelque chose de simple est présenté, comme l'a dit Jean-Luc, ça ne veut pas dire que ça n'est pas profond. Mais quelque chose de solide dit simplement. Ça, ça fait du bien. Et alors, si on lit le contexte, en particulier le verset 9, et si on y associe justement le verset 5, alors je parlerai avec l'esprit. Bon, ben voilà, mon esprit me conduit à exprimer quelque chose au milieu de gens avec lesquels j'ai l'habitude de vivre en général. Je sais ce qu'ils sont en mesure de comprendre, et avec leur réaction, pour rebondir sur ce qu'on a exprimé déjà, je peux voir si effectivement j'exprime quelque chose qu'ils comprennent. Donc là, j'utilise ces ressources de l'esprit que Dieu a données pour traduire quelque chose qui soit compréhensible par les autres. Les emplois. Mon intelligence pour prendre la mesure des choses. Alors je chanterai, eh bien évidemment, quand on chante, en général on chante le même cantique, c'est pas mal, parce que si chacun chante son cantique, ça fait pas nécessairement quelque chose de très joli. Il y a des musiciens ici qui pourraient réagir et que ça fait un peu frémir sans doute. Donc ici, on n'a pas un sujet personnel devant soi, on n'a pas des paroles qui correspondent à quelque chose qu'on est chargé de dire de la part du Seigneur, mais on a un contenu qui est tout fait. Et pourtant, il est bien dit ici, je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc ça veut dire que ce que j'exprime, c'est pas quelque chose qui est en l'air, justement. C'est quelque chose qui a du sens, et quand on chante des paroles qui ont du sens pour nous, c'est différent. Vous avez entendu des cantiques chantés par des gens qui chantent simplement pour la mélodie, vous avez entendu des cantiques chantés par des personnes qui chantent parce que leur cœur parle, c'est tout à fait différent. Alors je chanterai avec l'intelligence. Eh bien, quand on chante un cantique, les paroles sont associées à une mélodie. Si on chante presque tout sur le même ton, sans nuance, ça ne fait pas du tout le même effet. Le cœur porte à respecter les choses parce que la musique exprime aussi quelque chose. L'intelligence a sa place dans le chant des cantiques. Si vous regardez, on essaie d'apprendre à chanter, mais il n'y a pas que là. Si vous regardez les indications qui sont données par des gens compétents, parce qu'il y a des gens qui sont compétents, il y a aussi des dons pour la musique, bien, il y a des endroits où il faut chanter un peu moins fort, d'autres endroits où il faut chanter un peu plus fort. Et je vous assure que ce qui est entendu par ceux qui écoutent, ça n'est pas la même chose si on tient compte des nuances, et si on ne tient pas compte des nuances. Donc, on est son cœur, les paroles ont du sens, on les exprime parce qu'on y croit, on respecte les nuances, comme ceci, c'est le profit maximum pour ceux qui écoutent. Ça paraît tout simple, ça paraît terre à terre, mais c'est tout à fait utile. Psaume 47, verset 7.
Bonjour.
Bien, psaume 47, verset 7. Car Dieu est le roi de toute la terre, chantez avec intelligence. Cela nous dit littéralement en instruisant. Oui, alors je vais citer une réflexion en passant que j'ai entendue. On chante des cantiques quelquefois pour traduire ce qui est dans le cœur. On va par exemple dans les maisons de retraite et on chante. Mais il y a une instruction pour ceux qui entendent. Et moi, on m'a dit non, ça, on ne doit pas faire ces choses-là parce qu'on chante à Dieu. Ce n'est pas pour les personnes qui sont là. Bon, ben moi, je vous assure que quand j'entends un cantique chanté par des chrétiens qui expriment ce qu'ils ont dans le cœur, de tout leur cœur, ça me fait du bien, je vous assure. Je suis certain que le Seigneur est content. Mais moi, ça me fait du bien. Et c'est bien, ce psaume-là, 47, verset 7, « Chantez avec intelligence. »
Chronique 25, verset 7. Il s'agit des chantres qui étaient comptés parmi les serviteurs de David. Et leur nombre avec leurs frères instruit dans l'art de chanter à l'Éternel. Tous les hommes experts étaient de 288. L'art de chanter à l'Éternel. Donc ça veut dire que chanter, c'est un art. Et comme tous les arts, ça s'apprend. Ça s'apprend avec l'intelligence. Il y a une mesure, il y a des nuances, il y a un rythme, il y a des choses qu'on doit apprendre, c'est un art, sinon ça s'appelle l'art primitif, ça c'est autre chose. Mais on a à apprendre à chanter aussi avec notre intelligence. J'aimerais juste aussi dire quelque chose par rapport au fait d'enseigner avec l'intelligence. Il me semble qu'il y a quelque chose, on trouve en 2 Timothée 2, verset 14, qui montre là peut-être un manque d'intelligence. Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de dispute de mots, ce qui est sans aucun profit et pour la subversion des auditeurs. Alors ça c'est peut-être aussi un piège. C'est lorsqu'on a des moments d'échange comme ça entre frères par exemple, eh bien il y a mes pensées et j'y tiens beaucoup et je vais les défendre. Et je vais défendre bec et ongle, et ça va tourner à la dispute de mots, et ça ne laisse en aucun profit pour ceux qui sont là. Alors, on a bien lu, remets ces choses et mets en mémoire protestant devant le Seigneur. C'est la pensée qu'on est devant le Seigneur qui devrait nous garder des disputes de mots. Et le fait de vouloir défendre sa propre pensée jusqu'au bout, sans doute là aussi c'est un manque d'intelligence. Peut-être aussi dans l'ordre... le même ordre d'esprit, il y avait dans les questions les formules toutes faites. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un langage ésotérique. Peut-être aussi, on peut s'avertir les uns les autres de ces formules toutes faites. Et on est tous faits. On peut pas dire, mais c'est lui, il a ce patois de Canaan, moi je l'ai pas. Non, on est tous faits avec ces formules. Et peut-être dire quelque chose aussi là-dessus.
C'est une toute petite chose. Un frère que certains ont connu ici, Monsieur Geoffroy, est un frère qui était venu au Seigneur, il avait déjà un âge avancé. Et son fils, à son enfouissement, celui de son épouse, je me souviens, non, à celui de son épouse, oui, est venu me voir et il m'a dit, « Vous savez, mon père, je veux vous dire quelque chose. Je comprends pas, mais il fait la prière et chaque fois c'est différent. Je ne comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi et comment mon père peut chaque fois dire quelque chose de différent et qui fait du bien. Voilà. Pas une formule, hein. C'est vrai qu'il faut y penser parce que on doit reconnaître que quand certains commencent quelque chose, on se dit tiens, on va entendre ça, et malheureusement c'est vrai, assez souvent. Bon, ben il faut peut-être s'entraîner, pour ça il faut peut-être y penser, pour que ça ait de la fraîcheur, quelque chose de nouveau, que chaque fois il y ait un petit ton différent. Pas de veine redite. Ça c'est rafraîchissant, pas de veine redite. Hein? C'est rafraîchissant, et ça réchauffe le cœur en même temps.
À propos des cantiques, il est quand même écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant par des réunions d'études, c'est pas ça, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Chanter des cantiques, c'est quelque chose qui enseigne et qui édifie.
À propos de ce verset 15, quand on lit, je prierai avec l'esprit, même verset 14 quand même, c'est intéressant, car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Quel donc, je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans verset 14, même si on est passé tout de suite au 15, il est dit, mais mon intelligence est sans fruit, ça veut dire ce que j'exprime est sans fruit. Je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai faite il y a 2 ans juste. J'étais quelques jours sans pouvoir parler. J'étais donc privé de la parole. Et pourtant, mon esprit était complètement lucide. Je pouvais parler à Dieu avec des phrases construites. J'avais des phrases construites pour ma femme, mais elle ne comprenait rien de ce que je voulais dire. C'était des sons, les uns derrière les autres, elle ne comprenait pas. Voilà une situation, quelqu'un va parler dans une langue étrangère, personne dans l'assistance ne comprend la langue étrangère, et pourtant, il prie, c'est son esprit qui prie, c'est vraiment quelque chose qui ne vient pas de lui, puisqu'il ne l'a pas appris. Son esprit prie, et pourtant, qu'il est en train d'exprimer et s'enfuit parce que personne ne comprend. Donc, voilà ici quelque chose qui nous amène à comprendre ce qu'est l'homme. L'homme, et je ne vais pas entrer longtemps dans le détail, mais ce qu'est l'homme dans sa constitution, comme on le retrouve dans la première épître aux Thessaloniciens, esprit, âme et corps. Cette partie extraordinaire de l'être humain qui est l'esprit, et cette partie qui a cette possibilité d'entrer en contact, en communication avec Dieu. Dieu parle à l'homme et l'homme parle à Dieu. Et il y a là donc un échange qui se fait indépendamment de toute bouche. Ça se fait, c'est expérimenter ça. On peut donc avoir, continuer à avoir, même si on ne sait plus parler ou on ne peut plus parler, avoir cette communication avec Dieu ininterrompue. Jour et nuit. Ça, c'est la perception spirituelle qui nous amène à l'adoration, qui nous amène à la communion, à la découverte de la pensée de Dieu. Maintenant, l'être humain est fait de telle sorte que tout cela va pouvoir se traduire, va pouvoir être perçu, avoir une perception par la partie qui s'appelle l'âme, où se trouve l'intelligence, la volonté, les sentiments. Et toute cette perception spirituelle va être organisée dans cet être humain de telle manière qu'il va pouvoir exprimer quelque chose qu'il a vécu dans son esprit avec l'esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Et le corps qui est là pour mettre l'être humain en relation avec les choses matérielles, les choses donc, terrestres de la terre. Donc nous sommes des êtres donc qui d'un côté... Si nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, notre esprit se soumet à l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, nous avons une communication, on peut dire, sans friture. Hein, le téléphone, on ne comprend pas bien s'il est à terre, et ça coupe. Voilà, donc c'est libre. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Et bien justement, Dieu nous a fait de telle sorte qu'on peut mettre tout ça en ordre et que notre vie va pouvoir concrétiser quelque chose, que ma bouche va pouvoir dire des choses et dire des choses si j'ai cette intelligence qui est éclairé par l'Esprit de Dieu, parce que mon esprit est le maître de tout cet être, corps à l'esprit, eh bien, les paroles qui vont pouvoir être dites vont pouvoir être pour l'édification. Elles viennent de Dieu et elles vont pouvoir faire que du bien. Vous comprenez ça? Et c'est ce qu'on voit ici exactement. Alors, nous comprenons encore une chose, c'est que l'intelligence est fondamentale. Quand Paul il va s'adresser aux Corinthiens, par exemple dans le chapitre 10 et au verset 15, il a dit « Je parle à des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit ». Non, à des personnes intelligentes. Parce que justement, cela présuppose que ces personnes qui ont cette intelligence, qui eh bien, est cet être intelligent est soumis à l'Esprit de Dieu, se soumet à Dieu, soumet à l'autorité de la parole de Dieu, à Dieu. Et ainsi, ce que l'on va pouvoir exprimer, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les chants, que ce soit dans notre édification, il sera pour le bien. La preuve, c'est que nous voyons ici, cinq paroles avec mon intelligence. Moi, j'aurais écrit, conduit par le Saint-Esprit, pour que ça marche avec l'action de Saint-Esprit dans les réunions d'assemblée. Hein. Et non, c'est avec mon intelligence, afin que j'exprime ce qui veut. Donc, c'est le bon sens. Donc, n'attendez pas d'avoir tout d'un coup un éclair qui vient de je sais pas où, pour tout d'un coup dire, tiens, je vais pouvoir donner une parole de la part de Dieu. C'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est complètement faux. L'intelligence, c'est quoi? C'est ma capacité de comprendre le langage de Dieu et de pouvoir le concrétiser de manière à ce que moi je comprenne mon intelligence et que je puisse apporter ce que j'ai compris aux autres. Pourquoi? Pour l'édification et pour le bien. Voilà ce que veut dire simplement cette parole. Alors qu'on puisse continuer en disant effectivement, ça va amener des mots, des phrases compréhensibles. On comprend très bien, ça vient après. Mais vous voyez le fonctionnement de ce paragraphe. Donc pour bien nous faire comprendre que toute action, et qu'elle soit dans le cadre de l'Église locale, dans les réunions ou ailleurs, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette même intelligence autant pour lire un texte de l'Écriture que de s'acheter un pantalon quand on va dans le magasin. Pour choisir un conjoint, on en a besoin. Pour choisir un métier, on en a besoin. Mais pour choisir les choses de la vie de tous les jours, j'en ai autant besoin. Alors est-ce qu'on va se poser, est-ce que je suis conduit par le Saint-Esprit pour acheter un pantalon marron ou un pantalon noir? C'est pas ça le problème. Mais si on a une relation avec le Seigneur, eh bien on sait qu'on n'achètera pas quelque chose qui ne va pas, qui ne peut pas faire plaisir au Seigneur, quelque chose qui est indécent par exemple. Ben, je ne me poserai pas la question, est-ce que je suis conduit par les sources? Non, c'est le résultat de ma vie. Mais pour vivre nos réunions, c'est la même chose, c'est rien de plus. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais alors nous verrons après en quoi ce que je crois être la bonne chose va être limité, parce que chaque frère, chaque sœur a ce même fonctionnement avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a cette autorégulation qui fait que la vie de l'Église devrait être une vie heureuse. Je ne sais pas si je me suis bien compris.
Il y a une part de responsabilité aussi de parler de façon compréhensible avec son intelligence. Je voudrais citer ce verset connu de Matthieu 13. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. Si nous sommes incompréhensibles, ça ne sert à rien pour la conversion d'une âme ou pour l'enseignement, comme nous le dit chapitre 14, dans l'assemblée. Mais celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit, etc. Entendre et comprendre. Il faut recevoir avec son intelligence et comprendre ce qui a été dit. Donner avec l'intelligence et le recevoir et le comprendre.
Il y a une relation, contrairement à peut-être ce qu'on croit dans le monde scientifique, une relation entre l'intelligence et le cœur. Si le cœur est endurci, il n'y a pas d'intelligence. C'est ce que dit le Seigneur aux disciples d'Emmaüs, aux gens sans intelligence, lents de cœur à croire à toutes les choses que les prophètes ont dites. Et puis au chapitre 24 jours et au verset 45, Et alors, il a ouvert l'intelligence pour entendre les écritures. Vous savez, l'endurcissement du cœur, ça finit par être de la folie. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vraiment, je suis persuadé que lorsqu'il y a une disposition de cœur à faire des progrès, à entrer dans les pensées de Dieu, eh bien, cette intelligence du cœur sera donnée. C'est ce qui était reproché au peuple par la bouche d'Ésaïe, qui disait au chapitre 44, verset 18, ils n'ont pas de connaissance, ils ne comprennent pas, car il a couvert d'un enduit leurs yeux, en sorte qu'ils ne voient pas, et que leur cœur, en sorte et qu'ils ne comprennent pas. N'est-ce pas? Mais leurs cœurs sont épaissis. Voilà, je crois que voilà, nous sommes ce n'est pas de l'orgueil, loin de là, c'est plus on sera humble, disposé à entrer dans la pensée de Dieu, désirer avec ardeur le pur lait intellectuel, l'intelligence spirituelle nous sera donnée.
Mais là, il ne s'agit pas de recevoir, mais de donner dans ce chapitre. Il y a deux aspects. Il y a celui qui écoute et dont le cœur est dur. Et comme dit dans Matthieu 13, à suite de ce que tu as dit, le Seigneur va parler en parabole parce que avant, les gens ont refusé d'écouter. Et il parle en parabole de peur qu'ils ne comprennent du cœur. Et c'est un jugement qui tombe sur le peuple d'Israël, parce qu'ils ont refusé le Messie qui leur a été présenté. Mais le Seigneur va parler ensuite, va enseigner en parabole pour que ceux qui cherchent, à ce moment-là, trouvent, soient instruits. Alors, il y a deux aspects. Écouter la parole de Dieu pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et puis, il y a l'autre aspect. Si nous sommes appelés à transmettre cette parole, nous sommes responsables d'être compréhensibles, que l'Esprit de Dieu nous dirige. Il faut quand même que la responsabilité de celui qui enseigne ne soit pas effacée. On n'a pas le droit de dire si ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils ont le cœur dur et que c'est leur faute. Si les gens d'en face n'ont pas compris, ça peut être aussi parce que je ne me suis pas bien exprimé. Le Seigneur s'est toujours mis à la portée des gens. Toujours. Et c'est un sujet d'étude absolument formidable de voir comment le Seigneur enseigne. Excusez-moi, j'ai déjà dit, mais je crois que vraiment ça vaut la peine parce que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Je veux juste te donner un exemple du Seigneur qui se met vraiment à la portée de ceux qui vont l'entendre. C'est en Matthieu, au chapitre 4, au verset 18. « Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, je ferai de vous des évangélistes. » Non, il leur dit pas ça, parce que évangélistes, ils n'auraient pas compris. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est bien la même pensée, et ils la comprennent. Et je crois que pour nous, il faut qu'on fasse attention, d'une part, à ne pas tomber dans la trivialité, c'est-à-dire utiliser des termes qui ne sont pas propres, mais aussi à ne pas tomber dans l'ésotérisme en utilisant des termes qui sont incompréhensibles pour les non-initiés. Et là, le Seigneur Jésus, eh bien, il leur dit bien, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, ce qui est la même chose qu'évangéliste.
Mais aussi, dans notre passage, la pensée d'une communion par rapport à ce qui peut être exprimé. Et nous trouvons cette pensée-là au verset 16, autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme saint dira-t-il l'amène à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Alors, il faut que ce soit simple, que ce soit exprimé clairement, et il faut que l'autre puisse le comprendre, et en particulier s'il y a une action de grâce, eh bien, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit audible, il faut aussi que ça ait la fraîcheur de quelque chose qui sort du cœur et qui exprime véritablement une reconnaissance, ou si c'est une demande, une prière qui correspond à un vrai besoin, alors on entend un « Amen » qui fait du bien, et on sait bien que le Seigneur va répondre. Bon, c'est difficile quand on n'entend pas, non pas parce qu'on n'est pas sourd, mais parce qu'on n'entend pas parce que c'est pas audible. Hein. Ou alors, quand il y a des mots trop savants, c'est bien d'avoir des enfants à la maison, parce que quand les enfants arrivent, il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour avoir visité des personnes simples, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes quelconques, pas du tout. Hein, je parlais de M. Geoffroy tout à l'heure, c'est quelqu'un de simple, et il était dragueur sur la Charente. Hein, mais c'était quelqu'un de profond dans le cœur, était engagé profondément, mais s'ils avaient employé des mots compliqués avec cette personne-là, il n'aurait pas compris, sa femme m'aurait regardé surpris, sans doute il m'aurait pas demandé de revenir comme ils l'ont fait souvent. Hein. Voilà. Et ici, quand on s'exprime entre nous, eh bien, il faut des choses qui soient compréhensibles. C'est vrai qu'on apprend du vocabulaire à l'école. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire très riche dans la Bible aussi. Hein. Mais faisons attention à utiliser des choses qui soient compréhensibles. Hein. Il y a des rassemblements où peut-être le niveau est plus élevé, alors on emploie un certain vocabulaire. Il y a d'autres rassemblements où les gens sont plus simples dans le langage, ben on peut employer un autre vocabulaire. Il faut que partout les choses soient compréhensibles, intelligibles, que ça fasse du bien, effectivement.
Il est aussi question de la prière. Et prier avec intelligence, ça devait nous mettre dans la tête un chronomètre. Quand il s'agit d'une réunion où on est ensemble, il est absolument impossible qu'on puisse se dire « Amen » intelligemment à une prière qui a duré 10 minutes, un quart d'heure. Ce n'est pas possible. On fait confiance. Mais on n'a pas dit « Amen » d'une façon intelligente. Et ça... C'est quelque chose, alors c'est, quand on lit des vieux écrits, c'est une maladie constante parmi les chrétiens depuis toujours. On prie et on oublie qu'on est à la réunion et on prie 10 minutes, un quart d'heure, et c'est impossible. Alors, peut-être une chose concrète, pour une réunion de prière, pourquoi ne pas se contenter d'un sujet? Mais quand on se contente d'un sujet, on n'est pas obligé de l'exposer dans tous les détails. Quand le Seigneur parle de la prière « Ami, prête-moi trois pains », l'ami qui demande du pain va pas faire un discours sur la qualité de la farine, sur la quantité d'eau et de farine qu'il faut faire pour faire du pain, sur le temps qu'il faut pour le faire cuire, ainsi de suite. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que on peut très bien prier pour un sujet et prier 10 minutes pour le même sujet en faisant des phrases qui n'en finissent pas. Mais se garder pour un sujet, tout au plus deux, et ça va être un truc qui va être, une chose qui va être absolument, qui va ouvrir la porte à des jeunes, des frères plus jeunes, à plusieurs frères, et qui va permettre que, eh bien, la porte va s'ouvrir, la possibilité sera donnée pour que la prière soit plus riche. Encore un peu, une chose. Imaginons que nous soyons 14 frères à la réunion de prière qui puissent s'exprimer. Et on a une réunion qui dure une heure. Si je prends plus du 14e de temps, c'est déjà peut-être long, eh bien je suis un impoli et je n'aime pas mes frères. Si ici il y a des gâteaux et que je commence par m'enquiffrer la moitié des gâteaux, ça serait un peu difficile, mais la moitié des gâteaux qui sont là, et que les autres n'aient plus rien à se prendre, je suis un impoli, je n'aime pas mes frères. Je trouve, et c'est une règle qu'il faut, enfin, je crois vraiment une règle importante à mettre en pratique, je n'ai pas le droit d'utiliser dans l'ensemble de la réunion plus de temps, il faut absolument que je laisse ce temps aux autres.
Je vais dire une chose très simple d'un enfant qui est ici, une réflexion d'un enfant. Je l'ai entendu moi-même, puisqu'il était derrière, j'étais dans la même voiture. Il avait pris ce soir-là sa montre. Et, la prière la plus longue, c'était, je crois, 5 ou 6 minutes. Bon. Oh, mais il y a un endroit. Hein? J'ai entendu une prière, 5 minutes, il dit, 3 comme ça et la réunion est finie. Ça peut aider chacun à bien retenir qu'il faut laisser la place aux autres, hein. Et en tout cas, au début d'une réunion de prière, un sujet. Et puis après, si on a des choses à cœur et qu'elles n'ont pas été exprimées, on peut les exprimer à la fin.
Je pourrais ajouter. Non, juste, c'est très vite. Simplement, au point de vue pratique, et puis sur la chose pratique, eh bien, je suis désolé, quelquefois, il y a beaucoup de personnes âgées, j'en fais partie, et à la sortie de la réunion, il y a des sœurs ou des frères qui me disent, je suis désolé, moi. J'ai dit Amen, mais je ne sais pas à quoi je disais Amen, parce que je n'ai pas entendu la prière. Ça, il y a un effort à faire, malgré la sono, qu'on soit entendu. On pense à Esdras, lorsqu'il lisait la parole de Dieu du haut de son estrade, il la lisait distinctement. Alors, que la parole soit courte, je suis d'accord, quelquefois on ne se rend pas compte, que la prière qu'on fait est trop longue, on ne s'en est pas rendu compte, ce n'est pas volontaire. Quelquefois dans des réunions de prière, comme le dimanche où on est en réunion de quartier, où on n'est que 2 frères ou 3, c'est très heureux d'ailleurs, mais forcément on ne peut pas diviser en 14 le temps. Mais je répète, c'est un effort à faire que tout le monde entende la prière. On est à genoux, bien sûr, on n'est pas dans une position facile. Voilà, nous sommes là pour dire des choses simples. Il faut y penser. Je suis d'accord que quand on prie, ce n'est pas peut-être, on aura peut-être peur de crier. Quoique, vous savez, quand Moïse a intercédé pour sa sœur Marie, elle a crié, sonnerre, sors-là. Voilà, alors, sors-là pour nous parler et pour nous dire ce que nous ressentons et ce qui est utile.
Alors, moi je fais toujours des prières courtes. Ma femme m'a dit le contraire. Qui a raison? On a absolument besoin de s'aider les uns les autres, de se répéter le message, d'écouter les messages aussi.
Confession pour confession, moi j'avais tendance à faire des phrases longues et je suis content quand on me fait remarquer qu'il y a des phrases trop longues.
Je crois aussi que on a un souci avec ce mot prière. Vous savez, les Anglais, ils disent rendre grâce. Et nous, la raison de prière, c'est demander. Juste, c'est un peu en aparté, mais alors, c'est quand même dans le sujet, il me semble. Il ne faut pas oublier de rendre grâce, de remercier. Ça fait plaisir à Dieu, ça fait plaisir au Seigneur Jésus. Vous savez, c'est quand on envoie par la poste un recommandé avec accusé de réception, eh bien c'est un petit peu comme ça, c'est un accusé de réception. Le Seigneur m'a donné quelque chose, il a répondu à nos prières, on accuse réception de la réponse qu'il nous a faite. Et il est heureux parce qu'il y a un retour. Je voudrais aussi, là aussi, encourager les jeunes frères en particulier, la réunion de prière. Et bien peut-être aux frères qui ont pris l'habitude de prier, peut-être de laisser un petit peu plus de place, peut-être parfois. C'est des fois un petit peu de on n'a pas trop les silences, mais parfois il faut laisser un petit peu de temps. Et les jeunes frères, peut-être d'oser, de commencer. Là aussi, ça demande pas un grand don. Ça demande pas un grand don que de se lever le dimanche matin et de dire simplement merci du fond de son cœur. C'est quelque chose que chacun peut faire, que chacun peut donner. Alors, on est en dehors du cadre de la prophétie. Mais je voudrais juste, pour faire transition, revenir à ce chapitre qui est devant nous, au verset 29. Les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres dorment, que les autres critiquent, que les autres discernent, ou jugent. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Déjà le fait qu'il y en ait deux ou trois, et sur le fait que les autres sont là pour discerner ce qui est dit.
On va dire quelque chose avec l'intelligence. Au sujet des deux ou trois, le Seigneur a dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Une heure. Quand on a été enseignant, il y en a plusieurs qui ont été enseignants, on nous apprend que la capacité d'écoute n'excède pas 20 minutes. Et qu'au bout de 20 minutes, il est bon de faire une rupture dans le discours, une plaisanterie, un schéma, un petit exercice, quelque chose, parce que l'élève ne peut pas être attentif plus de 20 minutes. 3 fois 20 minutes égale une heure. Donc deux ou trois, ça me paraît optimum pour une réunion d'une heure.
Oui, on a parlé du partage du temps pour la réunion de prière, mais effectivement, c'est aussi pour la réunion d'édification, je suppose, depuis ce que verset 26, il dit, quand vous vous réunissez, vous avez un psaume, un enseignement, etc. Apparemment, ils avaient préparé quelque chose, ceux qui avaient à cœur le bien de l'assemblée, et ils venaient avec ça. Enfin, moi je comprends comme ça, je sais pas, je l'ai pas entendu interpréter comme ça, expliquer comme ça. Et je comprends que à Corinthe, il y en a qui avaient préparé quelque chose et qui venaient à la réunion d'édification. Ça veut dire d'abord qu'une réunion, ça peut se préparer, conduit justement ce qu'on a vu par le sentiment du besoin, parce qu'on a dit, Jean-Luc a dit, je crois, une réunion, c'est pas délivrer un message, c'est, apporter, répondre aux besoins de ceux qui sont là. Ça peut se préparer, en tout cas ils étaient plusieurs, ils apportaient chacun quelque chose, et je vois pas que l'apôtre condamne cette pratique. Donc c'était bien la réunion d'édification, c'est aussi un partage, c'est comme la réunion de prière, c'est pas monologue.
J'ai entendu parler de Wachmanni. Un jour, Wesley, quelqu'un lui a demandé « Combien de temps vous mettez pour préparer votre prédication ?» Réponse, 14 ou 15 ans. 14 ou 15 ans. Ça veut dire que, le Seigneur parle à un moment donné de celui qui, le scribe qui prend dans le trésor de son cœur des choses anciennes et des choses nouvelles. Et il y a des choses anciennes et des choses nouvelles. Il me semble que la notion d'être disponible devant le Seigneur peut faire qu'on arrive avec un sujet à cœur. Quelque chose que l'on a mérité. À mon avis personnel, il vaut mieux, comme le bon vin, le laisser mûrir un peu. Et puis, on arrive en ayant ça sur le cœur. Et il me semble personnellement, c'est toujours une pensée personnelle, et je n'ai pas de passage très net, que je n'ai pas, moi, la science infuse, et j'ai besoin d'avoir la confirmation que c'est vraiment ce que le Seigneur veut à ce moment-là. De telle sorte que le début de la réunion va aider dans ce sens-là, soit pour confirmer, soit pour infirmer ce que j'avais sur le cœur. Et il me semble absolument garder cette pensée de laisser l'Esprit de Dieu diriger, le Seigneur diriger. Ce qui ne serait pas juste, c'est d'instituer un système qui remplacerait l'Esprit de Dieu pour diriger, organiser d'une façon humaine. Alors parfois, par rapport à des excès qui peuvent se faire, par exemple, de toujours il y a eu des cas où, dans des assemblées, des quelqu'un monopolisait de la parole, parce que, parfois aussi parce qu'on le laissait faire, les autres frères restent là, dans la douce torpeur du début d'après-midi. Et c'est pas juste. Et on arrive petit à petit à un système automatique, une habitude automatique. Il y a ceux qui restent, qui se taisent, il y a ceux ou celui qui parle. Et c'est, il faut vraiment que par le, dans l'humilité, dans la dépendance du Seigneur, que laisser au Seigneur et à l'Esprit de Dieu l'autorité dans l'orientation de réunion. Alors, les Corinthiens, moi je comprends aussi un peu comme ça, ils arrivaient un peu, je vais me permettre l'image, comme les Gaulois qui sortaient pour se battre. Ils se bousculaient tant qu'on peut, et à moi, et à toi, et chacun d'eux, ils avaient un paquet de choses, et c'était le premier qui arriverait à le placer. Enfin, je le comprends un peu comme ça, il y avait du désordre. Et l'apôtre Paul vient dire, non, stop. Chacun de vous, vous avez vos... C'est sûr, vous avez chacun quelque chose. Mais non, dans la réunion, les prophètes, deux ou trois, et encore, pas les prophètes, ceux qui parlent par langue, deux ou trois, et encore si ça interprète. S'il y a interprétation. Et puis les prophètes, deux ou trois. Et si c'est une pensée d'intelligence pour limiter les choses de telle sorte que ce soit utile et que les choses se fassent dans l'ordre et produisent la paix.
On a peut-être remarqué que deux fois, même si on n'a pas tout, on ne l'a pas lu, mais au verset 23, il est écrit « Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, et puis on retrouve cette expression au verset 26, « Quand vous vous réunissez ». Ça veut dire que l'ensemble du chapitre, à part cette partie-là, ne concerne pas des réunions d'assemblée, mais ça répond à la vie du corps de Christ pendant toute la semaine, les 7 jours de la semaine. Donc on comprend bien que prier, que donner une parole d'édification, de consoler, d'exhorter, c'est pas spécifique à le petit pourcentage où l'Église est réunie pour cela. Alors ça c'était le premier point, qui montre bien que il n'est pas question d'homme ou de femme, hein, en rapport avec ça dans la première partie en tout cas, lorsque l'Assemblée n'est pas réunie en tant que telle, puisque là on voit peut-être une exclusion, une limitation pour nos sœurs, on verra ça à la fin, mais pour le reste de la vie de l'Église, voilà, il y avait les filles de Philippe qui prophétisaient, et puis on voit donc différentes activités, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà, donc l'important c'est de pouvoir apporter, faire du bien à ceux qui sont proches de nous. Mais voilà ici l'expression « lorsque l'Assemblée tout entière se réunit ensemble, quand vous vous réunissez ». Et alors là, peut-être une chose intéressante à noter, c'est que, à part cette réunion que nous avons appelée réunion d'édification, pour toutes les autres réunions que nous avons l'habitude d'avoir, que ce soit la prière ou la culte de l'adoration, il n'y a aucune indication dans le Nouveau Testament pour savoir quelle forme elles peuvent prendre. Donc là, ça, c'est quelque chose qui peut nous alerter et nous dire, tiens, voilà, notre fonctionnement est-il biblique ou pas biblique, voilà. Donc on peut toujours se poser la question, mais c'est pas là où je voulais en venir. La question qui se pose ici, voilà, vous êtes réunis ensemble, et il semble que ça se termine pas, mais au verset 26 à la fin, c'est que tout se passe pour l'édification. Donc on comprend bien que c'est une réunion qui a pour but l'édification, c'est-à-dire qu'il y a une croissance des différentes personnes qui sont là. Édification, ça veut dire croissance. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va arriver là, effectivement, on vient et on se réunit ensemble. Le but, c'est qu'il y ait une construction, qu'il y ait une édification, qu'il y ait une croissance de chaque personne. C'est ça qui est important. Alors, on voit ici différentes choses. On voit un psaume. Alors, chacun de vous a. Alors là, ça va enlever un petit peu l'image qu'on disait tout à l'heure du match de tennis où il y a deux joueurs et tous les autres sont des spectateurs. Bon, si c'est un match de foot, il y en a 10, et 10, il y en a 20, donc un petit peu plus. Mais n'empêche que la réalité ici, c'est chacun de vous, a quelque chose. Alors, ça veut dire quoi aussi? Et c'est pour un peu rebondir ce que j'en disais tout à l'heure. Deux choses. C'est qu'il y a effectivement une possibilité d'une langue. Une langue, ça veut dire qu'il va se trouver que quelqu'un dans l'assistance va être là et ne comprend pas le langage habituel parlé par les personnes. Donc, à ce moment-là, eh bien, il y aura la possibilité de donner une parole de la part de Dieu pour cette personne-là. Voilà. Donc c'est pas prévu d'avance, on n'a pas préparé ça d'avance. Sinon, la personne, elle est prête à pouvoir, au moment où c'est utile, donner cette parole-là dans la bonne langue. Deuxièmement, il y a un psaume. Les psaumes, si on regarde les psaumes, c'est pas que des chants, mais c'est aussi beaucoup de textes qui nous parlent d'expérience de croyants, dont David et autres, soit dans leur vie personnelle, il y a eu des souffrances, et qu'ils vont exprimer, et qui vont être peut-être, et qui vont être certainement utiles pour d'autres qui vont vivre des situations peut-être qui ressemblent, et qui vont être amenés à découvrir comment Dieu peut les sortir de là, comment Dieu peut les aider, et cela amène souvent à la fin, nous célébrons Dieu, nous chantons Dieu. Voilà, c'est ça le résultat. Troisièmement, un enseignement. Alors là, attention, un enseignement, on ne peut pas enseigner si on n'a pas appris avant. Et ça, c'est ce que j'en lui disais tout à l'heure. Quelqu'un qui va enseigner et qui n'a rien appris de Dieu, il ne pourra jamais enseigner ce qui est de la pensée de Dieu. Donc ça nécessite un travail d'étude, donc de la parole de Dieu, effectivement la capacité que l'Esprit de Dieu donne à pouvoir expliquer clairement ce qu'on aura appris par sa propre étude personnelle. Ça, c'est quelque chose dont je te prépare d'avance. Il y a une révélation, une interprétation, et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut venir sur le moment. Mais c'est le moment, pas parce que ça vient, tout, ça nous tombe comme ça. C'est parce qu'on est déjà préparé, et voilà qu'il y a une situation. Et quand on voit aussi tout ce, quand il parlait des prophètes, j'aimerais dire quelque chose, juste en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Les prophètes. Mettons-nous dans le contexte de l'époque. Premièrement, il y avait ce qu'on appelle les apôtres et prophètes, qui une révélation de la part de Dieu pour compléter la parole de Dieu qui n'était pas donnée. Et donc l'apôtre Paul était un de ces prophètes qui recevait par révélation des enseignements de Dieu et qui allait les faire mettre par écrit et qu'on puisse avoir la parole de Dieu entière. Mais ça c'est fait, ça. Et ça c'est fini. Il n'y a pas à rajouter des choses à la parole de Dieu. Par contre, le prophète peut être amené non seulement à prendre des choses qui concernent l'avenir, ça c'est arrivé, mais pour ce qui nous concerne, l'avenir, c'est pas dire toi tu vas être appelé à partir en République du Congo, etc. C'est pas ça. Mais c'est peut-être nous rappeler aussi ce qu'est l'avenir pour le croyant et peut-être nous donner ce courage de pouvoir persévérer lorsque les moments sont très difficiles ou d'attendre vraiment le Seigneur. Le prophète, ça parle aussi, on l'a dit tout à l'heure, justement de situations qui parlent à notre propre conscience, comme ont fait les prophètes aussi d'autrefois, Agé et d'autres, qui ont révélé des situations. Donc voilà ici ces prophètes qui ont leur place aujourd'hui encore, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, et cela toujours dans le but de l'édification. Ce que vous voulez, je conclue en disant ceci. Les réunions d'édification sont les seules qui nous sont bien expliquées comment ça fonctionne. Pas plusieurs à la fois, l'un après l'autre, plusieurs, c'est une bonne indication qui nous est donnée. Pour but, l'édification et avec un autocontrôle de chaque frère et sœur, on veut dire, donc pour qu'il y ait du bien produit.
Excusez-moi, en dehors du sujet, je vois des personnes qui ont l'air de bien souffrir du soleil. Et c'est possible de changer de place pour ceux que le soleil gêne vraiment, ceux ou celles. Alors, je crois utile de souligner ce que nous avons au verset 30. S'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier cède. C'est pas facile à vivre, ça. Il y en a un qui est debout, qui exprime quelque chose, et ça serait bon d'ailleurs que chacun pense au verset 26, en se disant, chacun de vous a un psaume, un enseignement. Tiens, parmi tous les frères qui sont ici, qui est-ce qui part de chez lui pour une réunion d'édification et qui a quelque chose? Ce serait peut-être pas mal que chacun ait quelque chose. Alors il prend la parole ou il ne la prend pas. Quelquefois, ce quelque chose a besoin de mûrir un peu, et puis une autre fois, peut-être le dimanche suivant, ou quelquefois 2 ou 3 mois après, ça m'est arrivé, un cantique qui est indiqué, on se dit, ah, c'est le moment. Voilà, le cantique donne la pensée par l'esprit, c'est le moment. On exprime quelque chose, mais qui finalement était préparé. Mais le passage n'exclut pas du tout qu'on prépare quelque chose soigneusement, parce que c'est quelque chose qu'on a à cœur. Hein. Vous voyez, la parole de Dieu est à la fois suffisamment précise pour certaines choses, et elle se tait sur d'autres, parce que chacun n'a pas le même mode de fonctionnement. Il y en a qui ont besoin de notes, d'autres pas. Il y en a qui ont l'habitude de faire sans notes, et d'autres qui ne peuvent pas. Bon, ben, tout ça, ça peut fonctionner de la bonne manière. Et alors ici, donc l'un exprime quelque chose, bon, ça coule tout seul, je rebondis sur quelque chose qui a été exprimé, l'état de chacun dans l'assemblée, les frères qui s'expriment, l'ont sans doute ressenti, est tel que, prof, ça monte tout seul, ça vient tout seul. Mais quand l'état de l'assemblée n'est pas excellent, il faut quelquefois faire un effort pour dire les choses, hein. Alors on s'interroge toujours pour savoir si ça vient de soi ou si ça vient de l'Assemblée. Mais enfin, j'ai ressenti ces choses-là, donc je l'exprime en passant. Alors, celui qui a la parole s'exprime, et puis quelque chose est donné à un autre qui est assis. C'est peut-être bon, quand on présente la parole, de regarder un petit peu les autres. Alors, on en voit, bien entendu, qui écoutent et puis qui n'ont pas l'air d'entendre, bon, ça fait une réaction. On se dit, ah, il faut essayer d'être plus intéressant, de captiver un petit peu. Attention, réveille-toi, communique quelque chose que les gens aient envie d'entendre. Donc, ça stimule un petit peu. Et puis, on en voit qui ont l'air de penser à autre chose. Ah, peut-être quelque chose à dire. Alors, dépêche-toi à conclure avec ce que tu as à exprimer. L'autre a quelque chose à dire. On en voit qui cherchent un passage. Bon, et puis ils ont tourné les pages, par exemple, et ils laissent une marque d'une certaine manière. On se dit, tiens, il y a quelque chose à dire là. Alors, c'est bon, à ce moment-là, de conclure, sauf si on a vraiment quelque chose qui est essentiel et qui nous étreint, hein. Eh bien, on s'arrête et puis on laisse la place aux autres. Hein? Mais il faut y penser à ça, parce que ce verset est d'une grande importance pour que vraiment ça soit Dieu qui dirige, pas quelque chose d'arrêté à l'avance, de serré à l'avance, dans un temps qu'on a calculé. Hein? Dans l'enseignement, on a quelquefois un temps, et dans ce temps, il faut faire passer un certain nombre de choses. Donc, on est bien obligé de s'entraîner et d'organiser pour que ça passe dans le temps. Bon, ça s'apprend, hein. Mais dans l'assemblée, c'est différent. On a quelque chose à communiquer, on le fait, mais c'est Dieu qui dirige. Donc si, il faut bien être prêt, si on sent que l'Esprit a donné quelque chose à quelqu'un d'autre, à s'arrêter pour laisser la place. Et quand s'écoulent les 2 ou 3 avec une complémentarité, eh bien, on sent que Dieu est véritablement là, que l'Esprit de Dieu est libre, et ça donne de la vie à l'Assemblée. Ça édifie, ça fortifie, ça élève, ça resserre les liens, Ça, c'est bienfaisant, c'est édifiant, c'est utile.
Lors du jour, l'action de l'esprit est-elle limitée aux frères? Bon, il y a plus d'un quart d'heure encore. Peut-être que quelqu'un aura à cœur de développer, de répondre à cette question. Comment cette action se manifestera-t-elle chez nos sœurs? Bon, ça m'intéresse, si quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet.
J'aimerais avant revenir peut-être sur le fait de se taire quand quelqu'un a quelque chose. Je me suis souvent posé la question comment ça pouvait se faire. Taper sur l'épaule de celui qui est en train de parler. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne, être honnête, et qu'on apprenne pas à pas et revenir toujours sur la réalité d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Et ceci dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. Et pour l'apprendre, ce n'est pas aux réunions qu'on l'apprend, c'est dans la vie de tous les jours. Il y a une chose qui se passe, c'est que on n'a pas le droit de dire, et je souligne de deux traits, on n'a pas le droit de dire, je ne peux pas faire autrement, je dois me lever parce que l'Esprit me poussera. Ça, c'est faux. Dans l'Ancien Testament, quand Saül, tout d'un coup, tombe par terre parce que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il devient comme un instrument inconscient, inintelligent, dans les mains de l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons à apprendre la dépendance de l'Esprit de Dieu, mais avec notre intelligence, Dieu utilise des serviteurs qui sont là, servantes, qui sont là dans sa main, et qui sont intelligents pour comprendre ce qu'ils font. Et on a un verset qui dit « L'esprit des prophètes sont assujettis aux prophètes ». Donc, la maîtrise de soi, celui qui est prophète, celui qui a n'importe quoi, il doit être maître de lui. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. C'est ce qui est traduit dans la version ancienne, la tempérance. C'est dommage parce qu'on perd le sens de ce que ça veut dire. Dans notre langage actuel, la tempérance parle peut-être plus du fait de ne pas trop boire que du fait d'être maître de soi. C'est la maîtrise de soi. Donc, s'il y a ce fruit de l'esprit manifesté, le prophète va être maître de lui. Et il va savoir se lever et s'asseoir quand il faut. Donc, c'est facile à dire, les travaux pratiques sont un peu plus difficiles, mais il me semble que c'est l'enseignement de ce passage.
Il y a quand même, avant le verset 30, avant de s'asseoir quand on est en train de parler parce que quelqu'un a quelque chose à dire, il y a le verset 29, je ne sais pas, il y a quand même très peu de règles, on a dit, sur les réunions de l'Assemblée. Là, c'est quand même clair que les prophètes parlent deux ou trois. Il faut quand même bien reconnaître que chez nous, pendant longtemps, la règle, c'était une réunion d'une heure, un frère qui parle pendant 50 minutes. Et c'est une mauvaise règle. La règle générale, lorsque justement on a à cœur l'Assemblée et qu'on prépare quelque chose, c'est quand même facile de se dire je parle 20 minutes. Daniel a dit, c'est pas la Bible, c'est que Daniel a dit qu'on était attentif que pendant 20 minutes, mais c'est assez vrai. Et donc on peut quand même dire que c'est la règle générale, c'est deux ou trois parlent. Et bien sûr, l'exception elle est possible. Lorsqu'il y a un frère de passage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on peut l'entendre plus longtemps et on est heureux de l'entendre. Mais il faut quand même... Mais la règle est écrite, je vois pourquoi on fait comme si elle n'était pas écrite. J'ai fait mal.
Il y avait des personnes qui disaient que si on est quatre, alors ça ne sera plus une réunion d'assemblée. C'est pour dire combien il faut éviter de tomber dans ce piège de quelque chose de réglementaire. Là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pour juste confirmer ce qui a été dit là à propos des prophètes assujettis aux prophètes, on a parlé de Saül, mais même un prophète comme Jérémie, eh bien à cette époque-là, toi Jérémie dit au chapitre 20, eh bien la parole a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os, et je fus là de la retenir et je ne l'ai plus. Voilà quelque chose qui est un type de manifestation de l'esprit tout à fait différente de ce que nous avons maintenant, parce que nous avons maintenant une personne divine en nous qui rend témoignage des pensées de Dieu et qui parle à notre intelligence, comme on l'a vu tout à l'heure, et
celui qui parle par l'esprit, est responsable lui-même.
Aussi une réponse à toutes nos questions dans ce verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais non pas d'ordre, mais de paix. Si j'étais un Dieu d'ordre, ce qui est vrai en même temps, mais ça impliquerait des règles que nous nous donnerions, et des règles plus ou moins dites. Là, c'est un Dieu de paix. Et l'ordre va dépendre de ce fait-là. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que Dieu est un Dieu d'ordre qu'il y a la paix, mais c'est Dieu est un Dieu de paix, et donc il y a l'ordre. Alors, il me semble que dans toutes nos réunions, si on recherche cette dépendance de l'esprit dans la paix, alors les choses seront heureuses. C'est une chose aussi par rapport aux sœurs. Il me semble que les réunions d'assemblée, ce n'est pas que l'affaire des frères. Il me semble que l'adoration, c'est quelque chose qui est pour tous, pour les frères qui s'expriment, et pour tous les autres, et pour toutes les sœurs. Il me semble que celui qui prie est la bouche de l'assemblée. Et que donc, nous avons tous à avoir à cœur des sujets. Il me semble que si on reprend le sujet de l'adoration, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a un dixième des visibles et 9/10 qui sont pas visibles. Et est-ce que ce serait pas ça? Finalement, être conduit par l'esprit tous ensemble. Alors après, il y a la limitation des versets 34, d'accord. Mais l'implication de l'action de l'esprit, elle est pour tous. Ça va se manifester autrement, mais elle est pour tous.
Si les frères qui s'expriment sont effectivement la bouche de l'assemblée, il y a une adhésion de toutes les sœurs, qui d'ailleurs, sans prendre la parole, disent en tout cas « Amen » et chante les cantiques. Alors ça, c'est s'il y a une vraie communion, s'il y a cette vraie liberté, si l'esprit donne une joie que tout le monde exprime à sa place, eh bien c'est quelque chose qui élève le niveau, le culte est rendu d'une manière plus intelligible, mais pour une vraie joie pour le Seigneur, et pour une vraie joie aussi pour ceux qui sont là, hein, dans le culte. On exprime des choses qui montent vers le ciel, mais ça fait beaucoup de bien, hein, en même temps. Alors, bon, la parole est claire au verset 34 et 35, et quand il s'agit de réunions d'assemblée, on a dit ce qui en était en dehors de ces réunions-là, on trouve des femmes qui prennent leur place, comme par exemple avec Apollos, avec Aquilas et Priscilla. Et quelque chose qui est exprimé là, dans une conversation, une sœur aussi apporte quelque chose dans la conversation, utilement, parce qu'elle est spirituelle et parce qu'elle a des choses à dire pour expliquer plus exactement quelle est la pensée de Dieu. Mais l'action de l'esprit n'est pas limitée aux frères. Et si les sœurs chantent et disent Amen en entrant dans ce qui est exprimé parce que les frères sont la bouche de l'assemblée, eh bien, c'est par l'esprit que les choses montent vers Dieu, et c'est quelque chose qui fait du bien. Et puis, dites-moi, on parle de réunion d'édification. Alors, ce sont les frères qui sont amenés à prendre la parole. Mais que les autres jugent, moi, je ne lis pas ici que les frères jugent. Et par conséquent, je trouve tout à fait heureux qu'une sœur spirituelle, trouvant que quelque chose aurait pu être approfondi ou au contraire que quelque chose a besoin d'être corrigé, après la réunion ou à l'occasion d'un entretien, exprime quelque chose à ce sujet-là. Alors là, c'est bien l'esprit qui agit, les sœurs ont là leur place, et un autre jour, une édification sur ce point-là apportera des précisions qui manquaient. Vous voyez que nous sommes tous ensemble, nous respectons la pensée de Dieu, Dieu dit les hommes ici uniquement, là, les hommes et les femmes, les frères et les sœurs, là, les sœurs seulement, parce qu'il y a des cadres où, dans lesquels les sœurs seulement ont leur place, on écoute ceci, on respecte la pensée de Dieu, mais on est tous ensemble et l'Esprit agit par les uns ou par les autres. On répond en même temps à la dernière question, comment cette action se manifestera-t-elle chez nos sœurs?
Que les autres jugent. On peut peut-être lire dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. On peut éteindre l'esprit en empêchant de parler. Quand on lit ce passage que les autres jugent, si je présente la parole, ce n'est pas moi qui vais juger pour savoir si c'était juste ou pas juste. Ce sont les autres qui jugent. Ça, c'est important parce que c'est comme ça que la discipline selon Dieu et le bien de l'Assemblée est vécu ensemble. Et celui qui présente la parole doit être attentif aux remarques qui peuvent être faites, en positif ou en négatif d'ailleurs. Ça serait quand même dommage qu'on se parle que quand c'est négatif. Et il faut aussi savoir parler quand c'est positif. Mais on peut éteindre l'Esprit de Dieu en empêchant un don de s'exprimer ou de s'éclore. Je crois qu'il faut que l'on pense, nous les vieux, tu as souvent parlé des jeunes sœurs, ça m'a un peu stressé parce que c'est toi le plus jeune, le plus près de la table, tu penses aux jeunes. Tu dois te sentir encore jeune. Une partie importante du travail des plus anciens, c'est de préparer les plus jeunes. Et pour préparer les plus jeunes, il faut leur laisser le temps, leur laisser la place, les encourager. Personnellement, j'ai le souvenir de frères qui m'ont encouragé. J'ai aussi le souvenir de frères qui ne m'ont pas encouragé. Les deux ont été certainement utiles, mais probablement que le travail de ceux qui ont encouragé était quand même davantage selon le Seigneur. Mais nous devons être attentifs à ça. Et une des choses importantes, par exemple, c'est de savoir se taire. Alors ça, c'est facile. C'est plus difficile parfois en route, quand on regarde la pendule qui tourne, et on ne vient pas à la réunion pour écouter des silences. Mais savoir se taire pour donner l'occasion à quelqu'un de se lever. Si ceux qui ont plus l'habitude se lèvent parce qu'ils ont l'habitude, en fin de compte, petit à petit, on prend quand même l'habitude. Mais savoir se taire pour qu'un jeune frère puisse peut-être apporter ce qu'il a et ce qu'il n'ose pas donner. Alors c'est sûr, cher jeune frère, ça fait un peu vieux. Il faut vraiment savoir que la vie se manifeste par l'action, par ce qu'elle produit. Vous avez la vie de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Le Seigneur veut se servir de vous certainement dans la vie de l'Assemblée. Et je suis sûr que si avec la simplicité, avec l'humilité que le Seigneur attend, vous savez prendre courage et vous avancer, il y aura cette sphère toujours des frères plus âgés pour vous aider et vous encourager encore.
Simplement, peut-être pour aider les plus jeunes, eh bien, il ne faut pas hésiter à s'impliquer un petit peu dans la vie de l'Assemblée, à partager. Hein. Il y a des occasions, il n'y a pas seulement les réunions, parce que quand on vient uniquement aux réunions, à certaines réunions, on entre, la réunion se déroule, on s'en va, les échanges sont très limités. Mais il y a peut-être d'autres occasions où on peut justement, tiens, prendre la parole ensemble, pourquoi pas, hein? Les détendre, c'est utile, mais aussi prendre la parole, exprimer quelque chose, ou dans une conversation, simplement, partager. Alors le jeune se rend compte, bien, qu'il est capable d'exprimer quelque chose, et puis qu'il est écouté, et puis progressivement il prend de l'assurance, hein? Et puis s'il a à cœur quelque chose qui se trouve dans une portion. Mais je ne sais pas comment faire, mais cette portion, ça le préoccupe. Ben, il pourrait très bien se lever au moment d'une réunion d'édification et dire, je ne sais pas quoi dire sur cette portion, mais ça me travaille, j'y pense, il y a quelque chose là-dedans, je vais lire, et puis on peut partager. C'est arrivé, je me souviens de dimanche où quelqu'un a lu quelque chose et puis a dit, j'aimerais bien qu'on partage sur cette lecture-là. On partage sur cette lecture-là, et les jeunes peuvent exprimer quelque chose. On n'a pas de schéma figé. Hein? Les réunions habituelles où on commence par un cantique, puis un frère se lève, ou deux, ou trois, exprime quelque chose, on s'assoit, on termine, il y a un cantique, c'est habituel, il faut quand même que ça ait de la fraîcheur, mais si un dimanche, il y a quelque chose, ou un dimanche à l'occasion d'une réunion d'éducation, il y a quelque chose d'un peu particulier, on peut bouleverser les ordres d'abord, on commence pas, vous voyez, ce matin on a l'habitude de commencer par un cantique, et j'y pensais moi-même, et puis bon, ça s'est passé différemment, on n'a pas de schéma figé, on n'est pas gêné s'il y a un changement. Alors, les jeunes, quand vous avez quelque chose, si même ça modifie un peu les habitudes, pourvu que ça reste dans le cadre des choses écrites, eh bien, il faut pas hésiter. Ça vous encouragera, et en tout cas, nous pouvons vous dire plusieurs ici que nous, ça nous fait du bien, parce qu'on aime bien voir quelque chose derrière. Le frère dont je parlais ce matin, un jour, vient me voir, et puis me dit, Jacques, cet après-midi, c'est comme si j'étais pas là. Bon, il faut que les jeunes prennent leur place, et ça fait du bien. Et on aime bien entendre, nous, même si c'est très court, on aime bien entendre et ensuite aider. Alors, je souligne à la fin, parce que l'heure est là, qu'au verset 37, je le lis simplement, je pense qu'il est clair, si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Voilà, ça concerne ce qui est dans le chapitre avant, le commandement du Seigneur, la place des frères, le respect de l'action de l'esprit, la place des sœurs et le silence des sœurs dans les réunions de l'Assemblée, commandement du Seigneur. Voilà, par la grâce de Dieu, on aime la parole de Dieu, on ne comprend pas tout, mais on s'intéresse à ce qui est exprimé, on essaie de vivre ce qui est écrit, on a cette chose-là. Alors maintenant, si quelqu'un pense qu'aux questions qui ont été évoquées, il peut être encore exprimé quelque chose, ou si quelqu'un a une question ou veut rappeler une question en disant « j'aimerais bien avoir encore un exemple sur cette question-là », eh bien, on a 5 minutes, hein. Hein? Allez-y, je répète les questions. Comment puis-je comprendre que l'esprit me demande de prendre la parole? Sommes-nous tenus par des habitudes, schéma de déroulement, cantique ou passage préféré, formule toute faite, hein? On chante pas un cantique parce qu'on l'aime, on le chante parce que il correspond à la pensée que l'esprit donne. Parler, se taire systématiquement, quelle alternative et comment? Comment encourager un frère timide ou réservé? Qu'est-ce qui peut attrister, empêcher localement l'action de l'esprit? Comment s'encourager mutuellement dans le service de l'adoration, de la parole, de la prière? L'action de l'esprit est-elle limitée aux frères? Comment cette action se manifestera-t-elle chez nos sœurs? Ça fait une même question.
Encore une pensée au sujet de s'encourager. Encourager un frère timide, encourager un jeune, encourager même un autre frère. Des choses toutes simples. Parfois, on a la pensée d'un cantique, puis hop, il y a un frère qui nous devance et qui exprime le même cantique, qui annonce le même cantique, ou la même pensée, la même lecture. Bien, je crois déjà que, à la fin, on peut se retrouver pour dire, ah, tu vois, si tu ne l'avais pas indiqué, je l'aurais indiqué à ta place, ou inversement. Donc, c'est un, comment dirais-je, encourageant de voir que l'esprit agit. Et que, eh bien, ça fait du bien à celui qui a exprimé quelque chose de savoir qu'il n'était pas à côté du sujet, quoi. Et d'autre part, donc laisser aussi un peu de temps pour les plus jeunes, pour qu'ils aient à cœur d'être exercés et d'exprimer quelque chose, et aussi de les encourager à la fin en leur disant j'ai bien apprécié ce que tu as exprimé, avec un frère plus âgé aussi, d'avoir la liberté d'aller le trouver et de lui dire, tu sais, je partageais tout à fait ce que tu disais et j'ai bien apprécié. Pas dans le but de l'encenser ou de le flatter, mais pour le bien, pour s'encourager, pour se faire du bien.
À propos d'encourager un frère timide, en tout cas de ne pas le décourager et de ne pas arrêter l'action de l'esprit, quand il est dit que les prophètes se parlent de nous trois et que les autres jugent, peut-être qu'il faut préciser, il ne s'agit pas de mettre une note sur le message, encore moins sur le frère qui l'exprime, mais c'est jugé parce que celui qui parle, il est un homme, et l'esprit de Dieu parle par lui, mais mélangé avec son esprit à lui, et c'est jugé au sens de Thessaloniciens, c'est à lui, il y a des choses bonnes, il y a des choses qui sont moyennes, et puis il y en a qui sont plutôt fausses. C'est faire marcher ce discernement-là, quoi. Et c'est, je ne sais pas si un frère parle dans l'assemblée et que tout est bon, il faut juger, il faut discerner. C'est discerner dans la note. Alors, parce que comme ça, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il ne faut pas qu'il ait peur, il ne va pas être doté, ni sévèrement, ni pas sévèrement, c'est pas la question.
Il y a quelque chose qui est faux dans l'enseignement. Il peut y avoir une conversation ensuite, mais dans le privé, hein. C'est pas, on n'étale pas les choses dans le public, là. On cherche à le profit de chacun et la joie de chacun. Mais d'autre part, le passage que tu as cité, d'y éprouver toute chose, retenez ce qui est bon. Alors, s'il y a des choses qu'on n'apprécie pas, mais qui ne correspondent pas à une fausse doctrine ou à un faux enseignement, mais c'est boiteux ou c'est tordu ou ça vise quelqu'un, etc., bon, on balaye tout ça, on retient ce qui est bon.
Un exemple très précis, Prisca et Aquilas, voilà. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le, ou qui était insuffisant dans l'enseignement d'Apollos. Ils ont eu la délicatesse de le prendre à part, bien sûr. C'est le béaba de l'amour qui n'agit pas avec inconvenance. Voilà, l'amour qui se réjouit dans la vérité, mais qui agit avec convenance.
Peut-être aussi l'exemple des chrétiens de Béret qui regardaient dans les Écritures pour voir si les choses étaient bien ainsi. C'est toujours la parole de Dieu qui est notre critère, quand même.
Aussi de dire à un frère quand il a exprimé quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais qui est scripturaire. D'aller lui dire, ah ben tu vois, tu as exprimé quelque chose, tu m'as appris quelque chose, parce que ça, je n'y avais pas pensé du tout. C'est encourageant.
On sait que, simplement un petit mot, que nos sœurs n'aient pas d'action ou pas de don. Elles peuvent prophétiser, elles peuvent prier, elles peuvent avoir tous les dons que la parole nous révèle, leur exercice n'a pas lieu dans l'assemblée, pour certains d'entre eux, notamment pendant la parole, et édifier l'assemblée. Mais ces dons peuvent s'exprimer partout ailleurs, dans la maison bien entendu, et avec d'autres sœurs et à d'autres occasions. Donc, il n'y ait pas non plus de limitation à leurs dons, à l'exercice de leurs dons.